Radio Okapi. Le journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
L'ouverture de l'information judiciaire contre Constant Mutamba, c'est ce que demande à l'Assemblée nationale le procureur général près la Cour de cassation. Le ministre de la Justice est soupçonné d'organiser un détournement de 19 millions de dollars dans l'affaire des 39 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Le gouvernement congolais va être accompagné par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, annonce hier du ministre du Commerce extérieur. La collaboration entre les deux parties concerne notamment la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges et celui des subventions de la pêche, sans oublier le renforcement des capacités des opérateurs économiques et du personnel de l'administration du ministère du Commerce extérieur. Colonel Ruffin Mapela, administrateur du territoire de Djougou, est notre invité. Il va parler du cycle de violence dans cette partie de l'Ituri. Bonjour à tous. Notez d'abord que le Sénat devra se prononcer aujourd'hui sur la levée ou pas des immunités du président de la République honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila, poursuivi pour crimes de guerre et complicité avec l'AFC M23. Le bureau de la Chambre haute du Parlement invite les sénateurs à prendre part à la plénière à 14h pour la présentation et l'adoption du rapport de la commission spéciale mise en place par la plénière jeudi dernier. Cette commission, composée de 40 membres, a examiné le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre le sénateur Michel Longuepo et celui de l'auditeur général des FRDC sollicitant la levée des immunités de Joseph Kabila. Au cours de la plénière de ce jeudi, les sénateurs vont procéder au vote à bulletin fermé après le débat général sur rapport de la commission spéciale sur la levée ou pas des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Le ministre de la Justice est lui aussi dans le collimateur du procureur général près la Cour de cassation. Firmin Vondé saisit l'Assemblée nationale par un réquisitoire pour demander l'ouverture de l'information judiciaire contre Constant Mutamba, soupçonné d'organiser un détournement de 19 millions de dollars dans l'affaire des 39 millions destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Après la lecture du réquisitoire du procureur au cours de la plénière d'hier mercredi, l'Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale en vue d'auditionner et le procureur et Constant Mutamba. Michel Kifindangoy.
À en croire le président Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale ne sera jamais un obstacle à la justice pour qu'elle fasse son travail dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Vital Kamerhe.
Je vais être saisi par le procureur général afin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre Constant Mutamba, actuellement ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux.
De quoi le procureur général près la Cour de cassation reproche-t-il concrètement au ministre de la Justice, Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale.
La société Zion a ouvert le compte un jour après un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains. Il a été effectué sur ordre du ministre d'État. Ministre de la Justice, ces faits paraissent constituer l'infraction de détournement de deniers publics.
Conformément à la Constitution et au règlement intérieur, si l'Assemblée nationale autorise l'audition du ministre de la Justice et que sa culpabilité était établie, le procureur général près la Cour de cassation devrait introduire un nouveau réquisitoire sollicitant la levée des immunités de Constant Mutamba.
Toujours dans ce chapitre de la justice, après la condamnation de l'ancien premier ministre et député national Augustin Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle à 10 ans de travaux forcés, plusieurs réactions ont été enregistrées dans la classe politique congolaise et la société civile. Certaines organisations, notamment l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, dénoncent une lutte sélective contre la corruption. AZADO appelle la justice à faire la même chose avec d'autres mandataires de l'État impliqués dans les détournement des deniers publics. Les réactions des uns et des autres avec vous, Grâce Amzati.
La justice doit toucher tout le monde, déclare Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, appelant à une justice équitable et impartiale. Il regrette que malgré de nombreux scandales financiers ayant témoigné d'autres projets, certains responsables aient été acquittés, nourrissant ainsi un sentiment d'injustice dans la société. Réaction similaire de Jonas Tiombe, la coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, qui estime que ce genre de condamnation devrait se généraliser contre tous les mandataires publics impliqués dans les projets qui ont échoué, dont le projet Tshilegelu. De son côté, Georges Kapiamba, président de l'ONG Association Congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, félicite la Cour en affirmant que cette condamnation était un avertissement lancé à tous les prédateurs des finances publiques. Au sein de la classe politique, Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi, écrit sur son compte X, je le cite, « Au fil de ces décisions iniques, la Cour constitutionnelle s'est transformée en véritable laquais de la dictature. Elle vient à nouveau de poignarder le droit en condamnant Matata Ponyo après s'être jugée incompétente en 2021. » Fin de citation. Dans la foulée, Francine Muyumba, sénatrice honoraire et cadre du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, exprime sa solidarité à l'ancien Premier ministre et lui demande de demeurer résilient face à l'adversité, réagit-elle sur son compte X.
À Kindu, fief politique d'Augustin Matata Ponyo, les membres du parti politique de ce dernier, LGD, Fédération du Maniema, disent ne pas être surpris par cette décision de la Cour constitutionnelle. Son président fédéral rappelle tout de même que le pays est en guerre et ce verdict risque de le fragiliser davantage. On écoute Maître Justin Kamango Tabena, président fédéral de LGD Maniema, au micro de Florence Kizalunga.
LGD Maniema ne dit rien sur tout ce qui se passe. Parce que nous nous sommes bien préparés. Les leaders nous avaient dit, comme on a fait les revirements, et la Cour constitutionnelle qui est censée protéger la Constitution et commence à le piétiner, soyez sûr que je serai arrêté un jour. Et je serai condamné un jour. Et vous devez être serein et travailler pour ce pays, même si je mourrai. À notre population du Maniema, à toute la population de la RDC, que Matata s'en homme serein et il sait pourquoi il est poursuivi. Ce n'est pas parce qu'il y a Bukangalonzo, non. C'est parce qu'il a refusé de travailler avec le régime. C'est parce qu'il a fait le Maniema, ce qui est le Maniema aujourd'hui. C'est ça son problème. Ce qui se passe au pays n'est pas normal. Le pays est embrasé par la guerre, tout ça. Et pour unifier le pays, il faut commencer d'abord à unifier les enfants de ce pays. Les autorités doivent travailler sur ça pour que le pays reste un et indivisible.
L'administrateur du territoire de Bénin-Nord Kivu est préoccupé par les affrontements ces dernières semaines entre les différents groupes armés toujours actifs dans son entité. Colonel Alain Kiwewa l'a dit hier, après de nouveaux combats qui ont opposé mardi deux autres groupes armés dans la chefferie de Bassoara, causant la mort de deux personnes, dont un civil. Colonel Alain Kiwewa promet de réunir les responsables des différents groupes armés afin de comprendre la vraie cause de ces affrontements. Le colonel Alain Kiwewa est joint au téléphone par André Kitenge.
L'activisme des groupes armés devient très inquiétant dans les territoires de Lubero. En date du 12 au 13 mai de cette année, nous avions enregistré à Kasour, dans les groupements Moussindi et dans la chefferie de Batangi, où deux factions se sont affrontées. Il s'agit de groupes armés de victimes de massacres. Ils s'affrontent avec un autre groupe armé qu'on appelle MCLP. Le motif, c'est le leadership et l'occupation. Voilà ce qui a entraîné un bilan malheureux de plusieurs maisons qui ont été incendiées et les gens ne savent plus aller à leur champ. D'ailleurs, il y a un afflux de déplacés qui cherchent maintenant des endroits beaucoup plus sécurisés. Et c'est pour cela, moi, comme administrateur du territoire de Lubero, j'avais pris l'option d'essayer de voir comment réunir ces groupes armés. Comme nous sommes tous des patriotes, qu'il était bon de savoir pourquoi la quintessence sous la cause de ces affrontements répétitifs.
Pendant ce temps, à la suite des combats qui opposent les FRDC au groupe armé Zaïre, près de 54 000 élèves du primaire et du secondaire de Djina dans le territoire de Djougou ne vont pas à l'école depuis lundi dernier. Une situation qui intervient à la veille des épreuves de fin d'année, déplorent les responsables des établissements scolaires dans la zone. Floribert Ndjobu, préfet de l'Institut de Djina, demande aux autorités compétentes de mettre tous les moyens en œuvre pour sécuriser les enfants qui ont aussi droit à l'éducation. Il est joint au téléphone par Jean-Claude Lokidile.
Il devrait commencer la période de réviser des examens. Les enfants ne viennent plus à l'école. Même demain, il n'y a pas espoir que les enfants viennent. Ça aura des conséquences sur la formation des enfants. L'état qu'on a perdu avec la grève des enseignants, on a eu quand même des cours supplémentaires. Les enfants se sont rattrapés. Les enfants étaient bien activés aussi pour venir à l'école. Mais c'est seulement la guerre qui a déstabilisé maintenant. Ils ont perdu le courage de venir à l'école. Ils croient que peut-être la guerre peut encore reprendre, qu'on puisse stabiliser la paix quotidienne des meetings pour demander aux enfants de revenir à l'école et les parents aussi qu'ils envoient les enfants à l'école. Et que les autorités fassent ces meetings-là pour encourager les parents et les enseignants, même les élèves aussi à venir à l'école.
Le gouvernement congolais, par le biais de son ministère du Commerce extérieur, vient de décrocher un accompagnement de l'Organisation mondiale du commerce OMC sur le renforcement des capacités des opérateurs économiques, du personnel, de l'administration de ce ministère, mais aussi sur le transfert des technologies. L'objectif, selon le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, est de faire de la RDC un acteur majeur dans le commerce international et pas un simple observateur. Pour sa part, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a signifié au ministre du Commerce extérieur que son organisation va soutenir la RDC dans la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges et celui sur les subventions de la pêche. C'était au cours d'une réunion stratégique hier à Genève en Suisse, siège de cet organisme qui régule le commerce international. On écoute les explications de Julien Paluku au micro de Alain Irung.
La RDC, qui est membre de l'OMC depuis 1997, est en train de vouloir ratifier un autre instrument de cette organisation qu'on appelle l'accord sur la facilitation des échanges. C'est un accord qui a pour objectif effectivement de fluidifier les échanges au niveau des frontières, c'est-à-dire la rapidité dans les traitements des dossiers, dans les dédouanements. Et donc l'accord a été adopté en 2013 et donc ça fait 12 ans que notre pays ne l'a jamais ratifié. Et donc nous avons déjà soumis cette question au niveau de la commission ECOFIN du gouvernement. Et comme notre constitution le dit bien, à partir de l'article 214 jusqu'à 216-217, les accords sur le commerce ne doivent être ratifiés et approuvés que par une loi. Et donc nous allons devoir passer au Parlement, après notre passage le 14 mai, pour devoir présenter le projet de loi de ratification de cet accord pour nous permettre de bénéficier de tout l'accompagnement et toute l'assistance technique de l'OMC.
Et puis, notez aussi que la RDC siège depuis quelques jours au sein du secrétariat général de la Conférence de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, CONFEJES, un poste qu'elle a obtenu grâce au plaidoyer de la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, Noëlla Aéganagato-Nakwipone, au cours de la 40e conférence des ministres de ces secteurs tenue à Rabat au Maroc. Blaise Ndongala Mayanda.
L'élection de la RDC à ses postes marque une avancée diplomatique majeure en droite ligne avec la vision du chef de l'État, celle de hisser la RDC au cœur des instances internationales et en faire un acteur central du soft power africain selon des sources du ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique. Selon ces mêmes sources, il s'agit d'un pari gagné pour la ministre congolaise de la Jeunesse et de l'éveil patriotique qui a mené un plaidoyer auprès des décideurs, fonctionnaires internationaux et ministres présents à ses assises. Pour les conseillers chargés de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, cette rencontre a permis d'acquérir les ressources nécessaires pour renforcer l'encadrement de la jeunesse congolaise. Marc-Henri Lundula.
À l'issue de la 40e conférence ministérielle de la CONFEJES, que les conclusions tront de donner de la matière supplémentaire au ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique pour renforcer les outils institutionnels du secteur, mais aussi de nous permettre d'encadrer de la meilleure façon possible la jeunesse congolaise.
À Rabat, la ministre Noëlla Aéganagato a également réaffirmé l'engagement de la RDC à développer des solutions concrètes pour les jeunes en collaboration avec la Conférence de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie à travers des programmes, des formations, des financements et des renforcements des capacités.
Suite de notre série sur le choléra à Kalemi, pour cette quatrième partie, l'accent est mis sur l'assainissement. Les travaux d'assainissement de la ville de Kalemi sont donc parmi les actions qui sont menées par la population à l'initiative du maire pour lutter contre le choléra. David Moukebambombo, maire de Kalemi, explique que chaque jeudi, les habitants de Kalemi s'impliquent pour rendre propre leur milieu d'habitation et les milieux où chacun exerce ses activités. On l'écoute dans ses propos recueillis par Paulin Munanga.
nous avons fixé le salon chaque mercredi. Mais au conseil de sécurité que nous avons tenu dernièrement, le gouverneur a préféré que le salon soit jeudi pour lui permettre lui aussi de participer au salon parce que c'est le jour qu'il est disposé. C'est ainsi que nous avons décalé jusqu'à nouvel ordre. Le salon se fait jeudi. Alors je vous rassure que le jeudi passé ici, tout s'est très bien passé. J'avais sensibilisé déjà et le bourgmestre et le chef de quartier. Donc toute la population vraiment est impliquée dans le salon. Je crois que à cette allure, tout va bien aller. Chaque jeudi, de 7h30 à 11h, toutes les maisons doivent être fermées, tous les magasins. Chacun doit faire le salon devant sa parcelle, devant son magasin, devant sa boutique. La mairie remet le matériel à ses cantonniers. Nous avons la brigade d'assainissement de la mairie. C'est à eux que nous remettons le matériel. Mais la population, chacun doit se débrouiller. Notre grand objectif, c'est l'assainissement de la ville. Vous voyez que c'est une ville montagneuse. Tous les déchets des habitants de la colline se rejettent dans le lac. Et quand la population consomme cette eau du lac ou de la rivière Lukuga, c'est le choléra. Alors, nous luttons contre le choléra qui sévit dans la ville.
Actualité internationale.
Deux employés de l'ambassade israélienne aux États-Unis ont été tués près du musée juif de Washington hier soir, a annoncé la secrétaire à la sécurité intérieure. Danny Danon, le représentant permanent d'Israël aux Nations Unies, a dénoncé ce qu'il appelle un acte dévoyé de terrorisme antisémite.
L'invité.
Depuis près d'une semaine, le territoire de Djougou connaît un regain d'insécurité. Qu'est-ce qui justifie cette situation malgré les efforts consentis par les autorités et d'autres acteurs pour pacifier cette région? Comment mettre fin au cycle de violence dans cette partie de la province de l'Ituri, considérée comme l'épicentre des conflits armés? Notre invité, le colonel Ruffin Mapela, administrateur de ces territoires, répond à toutes ces questions dans cet entretien avec Jean-Claude Lokidile.
Colonel Ruffin Mapela, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le numéro un d'un territoire considéré comme l'épicentre, en tout cas, de l'insécurité des conflits armés dans la province de l'Ituri. Comment vous vivez cette situation au quotidien?
Alors, la situation que nous vivons réellement dans l'ensemble du territoire de Djougou, c'est difficile à définir. Donc, c'est une situation très capitale, très pénible que nous traversons. Ça fait au moins pendant 3 ans. Que nous sommes dans le territoire de Djougou où nous dirigeons, parce que nous menons des activités, nous menons des ateliers entre les communautés, nous participons dans des ateliers organisés même par la hiérarchie sur les problèmes entre les deux groupes armés. Mais dans un temps-là, vous allez retourner dans un cycle de violence.
C'est justement là où je voulais qu'on en arrive. Qu'est-ce qui suffit, malgré tout ça, ces ateliers, ces rencontres, ces dialogues, ces barazas, que ce soit par, en tout cas, d'initiatives locales au niveau du territoire, au niveau de la province, au niveau de la MONUSCO qui, votre partenaire et d'autres organisations humanitaires, qu'est-ce qui fait que, malgré toutes ces démarches-là, j'apprends qu'il y aura encore, c'est pas Arou, c'est pas 2 ou 3, bref, tout ça, n'est-ce pas, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche toujours pas?
Bon, personnellement, en tant qu'administrateur, avec l'expérience que j'ai déjà dans cette entité, je trouve qu'il y a toujours une main noire. C'est ces mains noires-là qui...
Mais la main noire, ça fait des années
on en parle. Oui, parce qu'on pose toujours des questions.
Il faut l'attraper, la main noire.
On pose des questions toujours, même aux gens-là. Oh non, voilà, il y a un problème de tirer des ficelles. Mais quand les uns arrivent à avoir cette volonté, bon, moi, je veux vous dire les noms. C'est un problème qu'on doit essayer de voir comment on peut trouver une solution. Parce que si je vois sur le problème de la communauté, oui, parce que on est ici à province de l'Ituri, il y a 21 communautés. Et dans cette 21 communautés, ce n'est pas le moment de dire que nous sommes peut-être une communauté prioritaire ou soit une communauté qui est placée telle. Qu'on arrive à trouver une solution nous-mêmes pour que la situation de l'ensemble de la province de l'Ituri et plus particulièrement du territoire de Djougou puisse prendre.
Quelle peut être la meilleure solution pour que la province de l'Ituri retrouve une stabilité, une accalmie, pour finalement qu'on puisse relancer, parce qu'à un moment donné, on avait commencé, mais l'élan a été cassé, pour qu'on puisse relancer tout ce qui est comme développement, comme activité socio-économique, pour qu'il y ait des asphaltes partout, que les commerces marchent, que les gens construisent des maisons, des bâtiments, qu'il y ait des investisseurs, parce que nous avons autant de richesses, nous avons de l'or, nous avons l'eau qui est là, des centrales hydrauliques. Bref, on a toutes les potentialités. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, votre mot de la fin aussi, pour que l'Ituri retrouve finalement le sourire, pour que ces gens qui sont dans des sites de déplacer des milliers puissent retourner un jour dans le village, bien que voilà, tout le dia est sans dire, quoi.
Premièrement, les gens de l'Ituri doivent être conscients de tout ce qui se passe ici dans la province de Lille. La deuxième encore, lorsque nous faisons des activités, des rencontres, des ateliers et de tels, nous devons être francs tous vis-à-vis de nous-mêmes.
Pas hypocrites.
Pas des hypocrites.
Vous avez oublié la dernière solution, c'est l'armée qui a le monopole de la violence qui doit sévir
oui,
finalement.
Parce que moi,
c'est là où on vous accuse un peu. Bon,
je parle.
Il faut sévir, il faut sanctionner, il faut punir.
Mais à part ces trois éléments-là, nous sollicitons cette justice transitionnelle dans la province de Lito pour que nous puissions arriver, à part la justice pénale, que nous allons arrêter les responsables de tous les actes, mais la justice transitionnelle aussi est très très importante pour que nous puissions arriver à mettre fin. Donc il revient à nos jeunes qui sont en train de chercher des problèmes pour aller rejoindre les groupes. Il y a les uns qui sont dans les groupes AI, il y a les autres qui sont maintenant dans les groupes CRP, mais moi je vois CRP et Zaïre, c'est pratiquement une coalition liée à une communauté. Et de l'autre communauté, nous avons aussi le Codeco. Dans l'ensemble, là, ces jeunes-là doivent savoir que nous sommes en train de faire revenir notre province en général, et en particulier les territoires de Djougou en arrière. Ça ne fait pas honneur. Nous devons voir plus dans l'avant et cesser nécessairement toutes ces velléités qui nous poussent à commettre les actes contraires à la loi. Parce qu'un jour, la justice va nous rattraper.
Colonel Mabella, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Pierre Diassinois a mis en onde ce journal qui arrive à sa fin. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi, le tout sous la coordination et la supervision de Jude Mister Bilanda Kumar. Merci à vous tous de nous avoir suivis.